chers auditeurs d'RCC, c'est enfin là. Le produit arrive, Game Lovers, pour la première. Je suis très fier de voir cette nouvelle entité apparaître sur la radio. Donc du coup, ça parle de quoi? On en avait parlé un petit peu, ça a mis du temps à se mettre en route. La mise en place est un petit peu, comment je pourrais dire, Maxime, elle est un petit peu...
Poussive,
elle est un petit peu... C'est du bricolage.
Franchement, dans la douleur, c'est du bricolage, mais on est là.
Donc, c'est Maxime Barboni que les gens connaissent sous son entité de professeur des écoles.
Le super-héros.
Qui va animer le Gotham, le Gotham City local, qui va animer cette émission. Donc, il y aura aussi... notre ami John, Jonathan, comment ça va?
Très bien, merci. Un invité, peut-être sur la durée régulièrement, venir partager les expériences avec vous.
Un invité pérenne, hein?
Un invité pérenne, exactement. Il y en aura d'autres, hein. On peut en citer quelques-uns. On peut citer Seb, on peut citer aussi.
On peut citer Sébastien, on peut citer Anthony qui avait, pour tout dire, hein, participé à notre premier épisode test qu'on a essayé de faire à distance, mais qui pour des raisons évidentes nous a posé pas mal de soucis d'enregistrement. Donc on va essayer de faire ça plutôt en présence de tous ceux qui le peuvent. Donc aujourd'hui, François, John et puis moi-même.
Un terme qui, pendant le confinement, prenait tout son sens en présentiel.
En présentiel.
Donc Maxime, je te passe la main, puisque moi je ne suis qu'invité, je ne suis qu'un invité à bord de ce petit vaisseau que tu as construit. Donc, à toi, les rênes, le volant, ce que tu veux.
Eh ben merci beaucoup, merci pour cette présentation. Donc, pour cette première de Game Lovers, nous on avait envie de vous parler de notre première grande aventure de gamer. Ce moment où tout a commencé pour nous, quand est-ce que chacun d'entre nous a découvert, je sais pas si je peux dire sa passion, mais en tout cas ses premières amours avec le média, avec les jeux vidéo. Donc aujourd'hui sont nos premiers baisers, nos premiers papillons dans le ventre qu'on a eu comme ça pour le jeu vidéo. Alors on va pas dérouler le programme complètement. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est commencer déjà par vous parler de ben voilà, quoi, nos premiers amours. Moi, je vais donner la parole à John parce que voilà, il n'était pas prévu, forcément, qu'il soit là, mais il est là, et ça nous fait plaisir.
C'est le Adil Rami de la liste.
C'est le Adil, c'est l'invité souris. Ouais, le Florian Thauvin.
Je sais pas.
Le Ribéry. Wow, le Ribéry de 2006.
Non, on se rattrape pas. Oui, alors l'expérience, ben elle s'est fait tout naturellement puisque mon père tenait un commerce et mon grand-père installait les jeux d'arcade. Ah, donc pour découvrir ça, j'ai regardé ce qu'il faisait et il m'a mis un tabouret, il m'a mis dessus les crédits en place et en avant et on joue sur les jeux de l'époque. Donc je rappelle la date 1978. Et voilà. Et
ça fait mal à quelques-uns.
Et on est parti là-dessus. Et évidemment, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Il y avait encore les télés en noir et blanc, deux chaînes ou trois, je ne sais plus. Et puis, comme loisir, je dirais, du foyer, c'était ça. Et c'était pour ceux qui ont connu les circuits, tout ce qui était un peu moderne de l'époque, c'était ça.
Alors moi, je n'ai pas connu les circuits, mais de quoi est-ce qu'il s'agit exactement?
Les circuits automobiles, les TCR, là aussi. Ah oui, oui. Excusez-moi.
C'est l'ancêtre du jeu vidéo.
Ouais, non, c'était les premiers circuits télécommandés qu'on fabriquait et que voilà, c'était très moderne pour l'époque. Les premières voitures qui se dépassaient. Bon, évidemment, ça a l'air très préhistorique ce que je raconte, mais.
Non, ben c'est certain que enfin, pour des enfants de qui nous écouteraient en 2022, hein, évidemment. Évidemment, tout ça oui, doit pas leur être très familier. Et alors, dans le média vraiment numérique, tes premières amours.
Ben, Galaga, je crois que c'était mon premier jeu. Alors, vous connaissez Space Invader,
qui était. Ben, je pense que tout le monde connaît Space
Invader. Voilà, c'est déjà un peu plus connu, mais ce jeu-là est arrivé plus tard. Et Galaga, on était dans la même architecture de jeu. Et il fallait scorer, donc il n'y avait pas de fin de niveau. Enfin, il fallait nettoyer la zone et ça revenait en boucle. C'était le score qui faisait foi à l'époque.
C'est quoi? C'était un vaisseau spatial avec tout un tas d'ennemis qui arrivent.
Oui, qui arrivaient. C'était
un shooter de l'espace.
Scrolling vertical. Donc, il y avait un système de capture de vaisseau. On pouvait se laisser capturer par l'ennemi et pouvoir le récupérer sans le détruire pour avoir deux vaisseaux en socle et avoir un boost d'armes pour avancer dans les niveaux. Donc.
C'est sympa de parler justement de ce genre de jeu où le scoring était important. Alors le scoring pour mettre comment dirais-je, pour faire un petit point de vocabulaire pour que tout le monde soit à l'aise. Voilà, pour les profanes, s'assurer que tout le monde comprenne de quoi il s'agit. C'est une logique en fait de game design, on va dire ça comme ça. Dans la façon dont on conçoit un jeu vidéo, on peut choisir une finalité, un but, un objectif. Et pendant longtemps, en fait, l'objectif des jeux d'arcade, ça a été justement de proposer aux joueurs de réaliser le score le plus haut possible. Et il y avait comme ça une notion de performance et de comparaison qui était induite par ça. Et c'est vrai que c'est longtemps ce type de jeu qui ont eu pignon sur rue dans les salles d'arcade. Et justement, par rapport au scoring, est-ce que toi, François, t'as des souvenirs de jeux comme ça de salles d'arcade où il s'agissait de faire le plus gros score possible?
Moi, je me souviens. Alors les plus anciens, puisque je suis pas si jeune que ça, il y avait cette salle. Alors c'était à Saint-Ambroise, je vois, ou à Algajol.
Sur Algajol, il y avait effectivement une salle qui était au niveau de la plage. Bon, ça c'est arrivé un peu plus tard, mais c'était pas mal.
Elle était pas mal. Et moi je me souviens, il y avait un jeu, c'était un jeu. Le terme, c'était Blood Bowl. C'était un jeu d'arcade. C'était au fait un genre de football américain, rugby foot, qui avait lieu dans un château. Donc le terrain c'était un château, en fait les portes du château c'était les buts. Et alors soit tu prenais une équipe de vampires, de trolls, de zombies, et chaque équipe avait ses spécificités de par ses trucs. Et en fait là c'était du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il y avait des trappes qui s'ouvraient dans le terrain, tes joueurs.
Mais la description traduit bien le ex.
Mais c'était
le Shaolin Soccer du jeu vidéo.
C'était complètement fou. Il fallait au moins une quarantaine de parties, donc alors des crédits à bloc pour comprendre déjà les boutons, pour savoir à quoi s'accéder, parce que je rappelle aussi c'était un joystick, trois boutons, trois pressions. Il n'y avait pas de, comment on appelle ça, de cumul de boutons. En tout cas, tu pouvais pas faire de combo en cumulant les trucs. Et puis moi qui suis un grand fan, il y avait les jeux de moto, de voiture, Outrun, je me souviens, Outrun qui après a été décliné sur console, et bien sûr les premiers jeux de foot, où là aussi l'objectif c'était d'inscrire ton nom, savoir que quand tu arrivais déjà en quart de finale, tu avais passé une heure et demie sur la bande d'arcade, sur la borne, tu avais du monde là, quand tu arrivais, tu commençais à voir, c'est ça qui était intéressant avec l'arcade, c'est que tu avais des gens, c'était une expérience que tu vivais à plusieurs en fait. En public, c'est-à-dire que quand c'était bon, les gens s'amassaient autour de toi et tu sentais que ça mettait de la pression, ça mettait du truc.
Bah déjà, il y avait certains jeux qui en plus pouvaient se jouer à plusieurs sur la même borne, et en plus il y avait cet effet, t'as raison, d'agglutinement.
Il y avait un peu comme dire, à l'époque quand il y avait du baby ou du billard, c'est les gens qui posaient leur pièce, c'est sur le recoin. Il y avait des gens quand c'était bon au jeu de foot, tac, ils mettaient la pièce sur le rebord. Je prends la gagne, avec la fameuse phrase du je prends la gagne. Alors c'est vrai que moi, ces premières expériences...
Il y a eu des bornes PES avec manette aussi, qui en ont vu passer, des joueurs qui prenaient...
Elles ont été en arcade avec le aussi, hein, parce que bon, moi, je suis arrivé à Calvic en cinquième, donc je me rappelle quand je prenais le bateau, l'été, donc la Corsica Ferry, il y avait la salle arcade, elle y est toujours, hein, elle y est toujours, mais à l'époque, c'était vraiment...
J'ai rêvé sur ce Virtua Tennis du bateau là, à vouloir inscrire mon nom partout.
Et puis c'était un cadeau pour les parents, parce que je veux dire les parents te lâchaient là.
La paix.
50 francs, ils te voyaient plus.
La paix des ménages.
Il faut se souvenir que sur les bateaux, les parties étaient légèrement plus chères que dans les bornes d'arcade des cafés. Donc oui, ils nous laissaient tranquilles, mais ça avait un coût de nous laisser tranquilles.
Moi j'ai un souvenir, tu vois, par rapport à Calvi, juste une seconde sur les bornes d'arcade Calvez. Je sais pas si vous l'avez connu, mais moi j'étais vraiment gamin, et c'était quand j'allais manger sur le port avec mes parents au Nautique, pour ne pas le nommer. Il me semble qu'il y avait une borne de Puzzle Bobble. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Je crois qu'il y a eu un Puzzle Bobble. Il y avait aussi les fameuses fléchettes.
Hein. Non,
mais là on sortirait du média, mais je crois qu'il y avait une borne de Puzzle Bobble. Alors pour ceux qui connaissent pas Puzzle Bobble,
tu avais pour les Calvets, parce que moi je m'en souviens, puisque j'ai connu la dernière année. Alors là. ceux de ma génération pourront mieux en parler que moi, parce que moi je suis arrivé sur la dernière année, c'est qu'il y avait la salle arcade sur le boulevard.
Ah, non, je l'ai pas.
Il y avait, alors à l'époque, je crois que c'était à Clin d'œil. Je sais pas si, c'était un petit peu avant la montée de la rue des écoles, tu vois.
Okay.
Donc, là, il y avait une salle qui était assez profonde, qui devait faire une dizaine de mètres, quinzaine de mètres de profondeur. Il y avait que des machines. Et je me souviens, on arrivait l'été. Et c'est quand tu faisais deux parties, tu sortais, tu avais le tricot, il était trempé, il faisait une chaleur dans ce truc-là, parce que t'avais toutes les bornes qui dégageaient une chaleur monstrueuse. Et tu faisais deux parties, t'étais en...
Bah, il faut dire que c'était un investissement financier, mais c'était aussi un investissement physique, hein, la borne d'arcade. Enfin, pour ceux qui ont pas connu le phénomène, d'une part, bon, ne serait-ce que les mains, l'agilité, l'espèce de frénésie qu'il faut avoir comme ça quand on joue sur une borne d'arcade, ça demande un engagement de la part du joueur, parfois, qui est bien plus important que l'engagement qu'on demande avec une manette dans les mains aujourd'hui. Et il y avait même des bornes, avec le volant. Enfin, pour les jeux de voiture avec le volant, avec les pédales, il y en avait d'autres. Tu parlais des motos tout à l'heure, où il y avait vraiment la moto, où il fallait se pencher. Donc, ça demandait un vrai engagement corporel.
Ah, mais il y avait deux écoles, parce que en termes de rapport physique au loisir, il y avait le flipper. Le flipper qui est encore plus vieux que le jeu.
L'ancêtre, ouais, c'est vrai.
Alors, le flipper, le billard, voilà. Donc, il y avait les pro flippers. C'était la guerre de consoles de l'époque. Les flippers ne se mélangeaient pas avec les bornes d'arcade et inversement, parce que c'était antérieur au jeu d'arcade que l'on a connu.
C'est peut-être un peu une réminiscence de la guerre qui viendra par la suite entre les PCistes et les consoleux.
Exactement, et pour te dire après...
Il y a toujours eu des guerres de clans, comme des esprits de clocher, des chapelles.
Je me souviens, donc la première console que j'ai eue, alors moi je l'ai eue tardivement, hein, c'était la Sega Mega Drive, donc c'était les consoles 32 bits. À ce moment-là,
Mega Drive,
oui, Sega.
16 bits, je pense.
C'est 16.
Ouais, c'est la Saturn qui est en 32.
C'est la Saturn qui est
bon, bref, mais là, on est pareil.
C'était des cartouches, c'était des trucs. Technique. Et les premiers jeux, c'était des déclinaisons des jeux d'arcade. Kick-Off, MotoGP, Outrun. Moi, tous les premiers jeux que j'ai eus sur la Mega Drive, c'était que des déclinaisons des jeux d'arcade. Hein,
donc... si on peut faire un petit point histoire, justement, c'est l'occasion de le faire, tu vois, on en parle, parce qu'en plus, John l'a mentionné dans le conducteur de l'émission, parce que tout ça se prépare, hein, vous croyez, vous, que ça sort comme ça de nos petites cervelles, mais on y a réfléchi, quand même. L'arcade à la maison, c'est un peu la promesse, en fait, c'est ce qui va faire que les joueurs vont sortir des bornes d'arcade et vont pouvoir jouer exactement à ce à quoi ils jouaient dehors, mais le faire directement dans leur salon, sur leur téléviseur. C'est un peu la grande promesse qui est portée par je pense que c'est Sega qui a le plus assumé ce truc là le fait de dire on prend des jeux d'arcade et on les balance dans votre salon. Peut-être Nintendo était déjà sur un autre créneau, on en reparlera. Il y en a d'autres qui ont essayé, hein. Il y a Atari qui a essayé. C'est peut-être aussi ce qui va quelques années plus tard causer la perte de Sega, on en parlera peut-être avec la Dreamcast, mais n'empêche que c'était ça, quoi, l'arcade à la maison. Vous l'avez connu, moi je l'ai moins connu, c'est pour ça que je vais passer la parole à John, parce que moi je suis vraiment venu aux jeux vidéo, la console était déjà dans le salon.
Nintendo, c'est à part, hein. Il faut rappeler qu'ils ont leur propre écosystème, et je sais pas, comme ça me vient pas, je me rappelle pas d'avoir vu un jeu Nintendo en borne d'arcade. Par contre, Sega, oui, et on a naïvement cru qu'on pouvait avoir la même qualité de jeu à la maison pour les produits de l'époque. On a constaté que non, puisqu'on y rajoutait toujours la pièce de 10 francs, pour ceux qui ont connu les francs, hein, c'est toujours pareil, hein, on se remémore. Et il y avait toujours la borne d'arcade, avait toujours une meilleure qualité, tant graphique que de fluidité. Bon, il n'y avait pas... la fiche technique comme on le connaît maintenant avec les FPS, les taux de rafraîchissement, etc. Mais la borne d'arcade proposait un produit qui était mieux fini que les consoles de l'époque.
Déjà parce que la place que permet la borne d'arcade, le nombre de composants qu'on peut y mettre à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec l'équivalent de la petite boîte à chaussures qu'on a, enfin les consoles de l'époque de salon, font la taille d'une boîte à chaussures, il faut tout y mettre dedans, tandis qu'une borne d'arcade, on peut vraiment pousser au maximum les composants.
Ce qui est marrant, c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a eu chez Nintendo le truc inversé, c'est quand ils ont créé la Game Boy. C'est-à-dire qu'ils ont fait ressortir, tandis que les gamins étaient retournés à la maison, jouer, vivre leur expérience, entre guillemets, de jeux vidéo et tout. Quand ils ont sorti la console portable, j'ai l'impression que c'était une opportunité de les faire sortir, de faire sortir la console, tandis qu'en fait, elles y étaient avec les bandes d'arcade dehors. Et là, ils sont sortis dans les...
Elles y étaient fixes.
Mais elles étaient fixes. Et donc, ouais. Du coup, c'était un peu le même, enfin, c'est un peu le même principe, sauf que là, la borne d'arcade se déplaçait, elle n'était plus soit fixée dans le magasin ou dans le truc de jeu vidéo, ou soit à la maison, derrière l'écran avec la prise Péritel, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire, qui accédait, parce que quand il y avait une Mega Drive et que t'avais un copain qui avait une Super Nintendo, les déménagements, on l'a tous fait, hein,
la console c'est... dans le cartable.
Avec la question, est-ce que tu as bien pris la prise Péritel? C'est la prise Péritel, c'était très important. Donc, c'est vrai que après il y a eu cette troisième phase, c'est-à-dire quand il y a eu la fixation de la console à la télé, il y a eu cette phase de se dire, allez, on va faire ressortir la console des maisons. Et c'est vrai que ça a emmené encore une autre expérience.
Bah, c'est vrai qu'on va en reparler, hein, du moment où justement
si j'étais Game Gear.
J'ai la console nomade mais branchée.
Qui bouffait des piles.
La console nomade sur secteur.
Voilà.
Ils ont inventé un truc, ces gars.
C'est-à-dire que ces gars ont inventé la console portable mais qui
branchée
doit être à proximité d'une prise.
Alors la consommation de piles, on l'avait regardé, hein, mais je crois que tu tiens pas une dizaine d'heures avec tes 6 piles.
8.
Hein. Ah, voilà, 8. C'est 8 heures.
Non, 8 piles.
Avec 4
et 4.
8 piles. Non, 4
et 4. 4 et 4.
Ok, j'ai un vrai doute, mais je te crois sur parole. Non, mais cela dit, sur le caractère nomade des consoles, qui viendra plus tard, hein, tu l'as dit, après que les consoles se soient bien imposées dans les salons, et vont ensuite, enfin, certains constructeurs vont essayer de proposer des consoles portables pour faire ressortir le jeu vidéo des salons. Faudrait voir dans quelle mesure cette recherche du jeu nomade, parce qu'en fait, ça a déjà quasiment disparu. Aujourd'hui, c'est les smartphones qui assument ce rôle-là de console portable. Mais il faut voir dans quelle mesure ça n'a pas influencé justement le... Comment on peut dire ça? Simplement la tentation de fabriquer, de transformer un téléphone portable en smartphone. Je me demande si l'ancêtre du smartphone, c'est pas la Game Boy au fond, ou si c'est pas... Bon, c'est certainement pas la Game Gear. Hein.
Après vérification, donc c'était 6 piles,
ah, voilà.
3 et 3. Et effectivement, donc, en termes d'heure, avec les 6 piles, on était sur du... 6 heures max.
3 quarts d'heure.
En fait, ça dépendait parce qu'il y avait un système de rétroéclairage.
Ah oui, l'écran était rétroéclairé.
Donc, il était couleur, ce que n'était pas la Game Boy, mais qui, Nintendo assumait complètement parce que, évidemment, 4 piles et avec une durée, beaucoup plus importante que la Game Gear.
Alors, c'est vrai que, en plus, tu avais la consommation de piles 4 seulement chez...
On parle de trucs qu'on doit passer pour des dinosaures, tu t'imagines?
Chez Game Boy, oui, mais...
Des consoles avec des piles, mais...
C'est-à-dire que tu te déplaçais, tes parents avaient 2 à 4 heures, t'imagines?
2 à 4 heures avec les 6 piles.
Donc, imagine-toi que les parents devaient... Il fallait acheter les piles, il y avait tout un truc, il y avait tout un truc autour. Aujourd'hui, on s'en rend pas compte parce que les enfants qui vont entendre l'émission, ils vont se dire, tiens, ils vont parler de jeux vidéo et tout, mais de quoi ils nous parlent? C'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont accès... au PlayStation Store directement sur le téléphone portable, ils ont les jeux sur le téléphone portable. Si on leur dit Street Fighter sur arcade et qu'on leur montre par rapport au Street Fighter sur lequel ils jouent, soit sur l'iPad ou sur le téléphone, ils vont halluciner, ils vont même se poser la question, mais qu'est-ce que tu fais avec ça?
Même si Street Fighter 2, quand même.
En fait, on a eu une console qui arrivait un peu plus tard, je me semble début des années 90, qui avait la qualité d'un jeu d'arcade à la maison, c'était la Neo Geo. Mais elle était excessivement chère et les jeux, les cartouches des jeux, c'était difficile de suivre. Ensuite, en termes, tu parlais de jeux sur le téléphone qui remplacent les consoles portables. Mais la philosophie de ces jeux-là ont changé parce qu'on est sur du free-to-play et qui est alimenté par les microtransactions pour faire évoluer ta partie. C'est-à-dire que tu vas jouer tranquillement et tu vas progresser. Au bout,
alors, free to play pour les profanes. Free to play, on explique.
Alors, c'est gratuit pour jouer. Donc, ça ouvre à l'ensemble d'un catalogue de jeux, évidemment, infini, puisque, évidemment, on paye pas, donc c'est gratuit. Et après, quand on veut faire évoluer le personnage, soit plus rapidement, soit à terme, il faut envoyer des microtransactions, hein, des petits achats. Alors, au début, c'est indolore, mais, dans le temps, on s'avère que le prix est peut-être plus important qu'un jeu acheté fini à 70 euros, 80 euros pour le prix actuel.
ben, c'est un petit peu, moi, ce que je reproche, pourquoi je m'écarte de certaines franchises, c'est un petit peu le cas aussi maintenant sur PlayStation. C'est-à-dire que des Call of, Battlefront, FIFA.
Avant d'aller des coupes.
Pour sortir ces franchises qui sont, voilà, c'est mastodontes, hein, du jeu vidéo. Fonctionne à travers ces transactions-là. C'est-à-dire que si tu veux évoluer plus vite, si tu veux des bonus, si tu veux des choses, à l'époque, des choses que tu n'avais que si tu finissais le jeu. En fait, c'était la carotte, un bonus, quelque chose de bien dans le jeu, un plus dans le jeu vidéo, c'était si tu le finissais. C'est ça aussi la grande différence entre avant et aujourd'hui, je crois. C'est vraiment que il y avait la promotion à celui qui terminait le jeu. Celui qui terminait le jeu, il avait un cadeau. À la fin, tu pouvais changer les vêtements de ton personnage. Enfin, tu ouvrais d'autres.
Oui, ça pouvait être cosmétique, voilà. Ça pouvait être un objet en plus, ça pouvait être.
Là, aujourd'hui, en fait, il n'y a plus cette promotion-là. C'est-à-dire, ce que je regrette un peu, c'est d'ailleurs que si tu débourses, alors parfois des sommes assez conséquentes, hein, c'est beaucoup plus cher que le jeu. Si tu payes 3-4 fois le jeu, ben, en fait, tu arrives au même niveau que quelqu'un qui a vécu l'expérience sans sortir un franc.
Ben, en fait, c'est exactement ce que connaissent peut-être pas ou peu, en fait, ceux qui découvrent le jeu vidéo en 2022 ou qui l'ont découvert là dans les années 2010.
Et je rappelle qu'il y a des législations qui sont en train de se mettre en place là-dessus, hein.
Ah, pour arrêter justement.
Et oui.
Non, mais, ben, alors, pour ceux qui justement ne connaîtraient pas la pratique.
C'est très important pour les parents qui comprennent pas quand ils achètent des cartes, tu vois, de
justement, ouais, exactement. Aujourd'hui, en fait, les jeux sont vendus, pour le dire vulgairement, à la découpe. C'est-à-dire que vous avez une édition de base qui comporte le jeu qui, bien souvent, n'est pas fini. C'est-à-dire que le jeu, en fait, propose d'autres choses supplémentaires. Sauf que pour avoir le droit d'y accéder, il faut passer, il faut sortir la carte bleue, il faut sortir le chéquier, hein, comme on dit, pour avoir le droit d'avoir une aventure en plus, une quête en plus, pour avoir des éléments cosmétiques en plus, pour avoir... des objets supplémentaires qui peuvent nous faciliter la tâche. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant. Quand un jeu sortait, il sortait fini. Alors que là, depuis quelques années, le jour même où le jeu sort, en fait, ce que je sais plus comment s'appelle la version sur disque qui est pressée, mais en fait, c'est même pas. Faut vous dire qu'aujourd'hui, quand vous achetez un jeu en boutique, le jeu probablement sera corrigé dès le premier jour avec ce qu'on appelle un patch. En fait, c'est une mise à jour qui dès le premier jour va venir corriger un certain nombre de bugs. Alors que tout ça n'existait pas. Genre 20 ans en arrière, la version sort, elle est définitive. Il y a tout à l'intérieur du CD. Et c'est même plus intéressant parce que, en fait, ça veut dire que si vous prenez votre vieille console et que, bah, elle fonctionne toujours, vous pouvez y insérer le jeu, tout fonctionnera comme ça fonctionnait à l'époque. Aujourd'hui, prendre le pari que je prends un jeu de 2022, je le mets sur ma console dans 10 ou 15 ans, il suffit que un serveur soit plus là, une mise à jour soit plus possible et peut-être que le jeu tournera pas. Donc, en fait, il faut vraiment avoir ce truc-là à l'esprit. C'est que les jeux, quand ils sortaient, ils étaient finis. C'était fini. Et prenez du temps aussi.
Plusieurs déclinaisons ont fait évoluer l'industrie en ce sens. Tu le rappelais, oui, un jeu acheté à l'époque, il était fait avec ses défauts ou pas. Donc, toute évolution était partie d'une bonne idée à la base, mais qui a été pervertie, j'exagère le mot, mais c'est presque ça, pour rentabiliser encore plus le jeu vidéo. Un jeu terminé en arcade, il fallait débourser une somme folle. Quand on l'avait à la maison, on y mettait du temps, mais bon, on pouvait faire au niveau du budget, c'était gérable. Puis, il faut rappeler aussi que dans le temps, des sauvegardes, il n'y en avait pas. Donc il fallait laisser le jeu constamment allumé pour le terminer, hein, et le reprendre, il fallait pas de coupure de courant, tout ça. Mais tout ceci avait un charme, parce que on avait une valeur sociétale qui était beaucoup plus forte, notamment dans les lieux de rencontre qui étaient les salles d'arcade, comme ça a pu être pour les cinémas ou autres.
Et les cours d'école, hein.
Et les cours d'école. Voilà. Donc, l'évolution a été positive dans la majorité des cas.
Même s'il y avait des cheats, hein, déjà.
Oui, et puis les magazines les proposaient, hein, avec les manipulations sur la manette à faire. Mais tout ça, l'industrie, comment je vais le définir, pousse cette perversion à l'extrême, et à mon sens le danger serait là.
Bah, en ce moment il y a un billet à faire. Enfin, personne n'est dupe. Hein. On en reparlera. Je pense pas qu'on en parlera aujourd'hui des NFT et de. Enfin, en gros c'est de la vente d'objets virtuels qui est sur lesquels tout un tas d'acteurs du jeu vidéo sont en train de spéculer et essaient de fourguer ça aux joueurs qui considèrent plus comme des clients aujourd'hui comme des joueurs, et à ce titre il y aura des choses à en dire, mais on en reparlera. Mais c'est vrai que à l'époque vous aviez quand vous achetiez un jeu, comme l'a dit John, il était fini. Il avait ses défauts, il avait ses qualités. Et bien souvent, il y avait tout un tas de ressorts comme ça qui étaient cachés hein, dans la façon dont il était conçu, qui nous permettaient ben, justement d'en parler, de découvrir des choses. Ils étaient bourrés de secrets, de choses qu'on voyait pas au premier abord. Il y avait pas de sauvegarde, donc on était obligé d'y revenir et de réessayer, de tenter des choses et d'en parler entre nous. Et il y avait un aspect comme ça collaboratif qui ouais, malheureusement, a peut-être un peu disparu.
Et il y a une deuxième phase, peut-être avant de revenir à des jeux qui nous ont marqués. Puisqu'il y a ça dans le fil conducteur sans même poser, c'est qu'au fait je pense qu'il y a aussi le progrès technique qui a un peu perverti les choses. Pourquoi? Parce qu'avant le jeu il y avait un vrai scénario, c'était compliqué, c'est-à-dire que véritablement pour terminer certains jeux sur Amstrad, moi quand je remonte hein, Amstrad, Atari, sur les premières, sur la NES, sur la Super NES, quelques jeux de Mega Drive. Voilà, il fallait se creuser les méninges. Il y avait certains jeux qui n'étaient pas accessibles. Si tu avais 11 ans, tu terminais pas Diablo, quoi. Je veux dire, c'était assez.
Ah, le jeu te prenait pas par la main. Hein. Non, il se livrait pas. Il t'expliquait pas tout ce que.
Et au fait, aujourd'hui, on a l'impression que les gens vendent plus une expérience qu'un scénario ou que quelque chose. C'est-à-dire que le progrès technique fait que, à l'époque, peut-être comme ils étaient bridés sur les personnages, sur les trucs, ils mettaient plus d'efforts sur le récit, sur ce que vendait le jeu. Aujourd'hui, ils sont sur tout ce qui est contenant, c'est-à-dire les personnages, il faut qu'ils soient très réalistes, très beaux. Il faut que ça envoie du pâté à la gueule de la personne. Il faut vraiment que ce soit une expérience quasi cinématographique. Et quelque part, moi, j'ai l'impression que
il y a eu un tournant dans les années 2010 qui est né avec plusieurs studios, hein, qui en même temps ont pris le virage que tu...
Et puis il y a eu le jeu en réseau aussi. Hein.
Oui, non, mais sur le virage cinématographique, narratif, etc., avec du graphisme ultra léché, il y a effectivement quelques studios qui ont pris ce virage-là dans les années 2010. On est peut-être déjà en train d'y revenir, parce que justement, je pense qu'il y a tout un tas de joueurs de notre génération à nous, hein, qui ont connu justement ces jeux qui étaient un peu... pas abscons, mais qui était un peu, qui se refusait un peu à nous.
Alone in the Dark, tout.
Enfin, des jeux, il fallait se creuser les mains, tu vois, il fallait s'investir.
Alone in the Dark, juste pour passer la première minute. Il fallait que tu réfléchisses deux jours. Juste pour passer le premier plan. Tu vois, c'était vraiment violent. J'ai mis 400 francs dans, à l'époque. alors, le prix du jeu vidéo a pas tant évolué que ça, entre guillemets. C'était quand même très cher aussi à l'époque, ça. Quand tu sortais un nouveau jeu, c'était 500 francs.
500 francs pour une cartouche dans les années 90, ça valait plus que les 75 euros de maintenant. Hein.
Voilà. Donc, en fait, tu as ce truc-là, et c'est vrai que aujourd'hui, je pense que si tu fais un jeu difficile, il aura peut-être pas de succès. Et quand tu parlais de, quand je parle de, ils sont plus intéressés par le contenant que le contenu, c'est tu le vois sur des Call of, où au fait, t'aperçois que c'est un budget de film, quasi de blockbuster américain. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs, il y a des trucs, ils tournent les scènes, ils vont aller chercher en Europe des endroits et tout pour les modéliser, pour les trucs et tout. C'est un coup, je crois que un des Call of avait coûté 45 millions d'euros juste pour les captures de trucs et tout. Donc en fait, tu te rends compte, vraiment, j'ai l'impression qu'ils sont plus intéressés par le contenant, ce qu'ils sont capables d'offrir, mais pas le récit narratif, pas le...
Oui, pas même les sensations que t'as à la manette à la main. C'est-à-dire qu'un Call of, en fait, l'objectif, c'est simplement, enfin, faut pas se raconter d'histoire. Il y a un enjeu économique très très fort. Le Call of, l'objectif, c'est d'en sortir un par an et de refourguer la nouvelle itération le plus possible à un maximum de joueurs. Donc, effectivement, il y aura du budget sur les visuels. Le gameplay va peu ou pas évoluer, en tout cas à la marge. On va proposer un nouvel habillage cosmétique et puis voilà, on va essayer de refourguer le truc. Donc oui, effectivement. Après, on a tous aimé les jeux de foot et les jeux de foot étaient construits exactement comme ça, enfin selon la même logique. Mais
après, c'est le problème des licences. On voulait le jeu pour avoir la licence à jour. Et quand on est fan d'une équipe, c'était toujours un plaisir de jouer avec cette équipe-là, avec les joueurs de l'année en cours. Mais c'est vrai que très peu d'évolution. Était permise pour des suites comme ça d'une année sur l'autre. Tout à l'heure on parlait des patchs Day One sur la mise en route des jeux actuels. Hein.
Alors le patch Day One, on rappelle la première mise à jour qui est faite à peine vous installez le jeu dès sa première installation pour corriger tout un tas de de bugs qui existent sur le jeu pourtant fini.
François parlait de Alone in the Dark, qui est l'ancêtre de Resident Evil, puisque le créateur de Resident Evil s'est inspiré de ce jeu-là pour faire le jeu que l'on connaît actuellement. Mais les corrections de l'époque, c'était la suite du jeu. Tant d'années après, puisque on jouait avec les défauts du jeu, et le deuxième corrigeait les défauts du premier, évidemment avec une continuité dans l'historique et une narration évoluée, et on attendait la suite. Et il faut savoir aussi que les sorties n'étaient pas mondiales. C'était d'abord le Japon, puis le marché nord-américain, et venait l'Europe après les Anglais. On était les derniers servis.
Et on ne savait pas pourquoi à l'époque, mais on peut vous expliquer maintenant, parce qu'on a grandi. En fait, c'est des logiques de localisation qui existaient à cette époque-là et qui faisaient qu'en fait, le jeu, lorsqu'il était construit, alors bien souvent, il nous venait du Japon parce qu'ils étaient à la pointe, hein, tout simplement, sur tout un tas de jeux. Et en fait, il fallait faire un énorme travail de traduction, de ce qu'on appelle de localisation, pour que le jeu puisse être transposé dans une langue et pour qu'il soit acceptable dans cette langue, c'est-à-dire qu'il corresponde aussi à tous les codes, à toutes les références culturelles qui pouvaient être faites, il fallait que ça colle, et ça prenait un certain temps. Donc, dans un premier temps, il était fait pour le marché américain, qui est évidemment plus important que le marché européen, et ensuite, il était fait pour le marché européen, et parfois, il était même pas fait en français. Hein,
oui,
parfois,
il était, c'est-à-dire que les voix étaient en anglais.
Ouais, parfois, il arrivait sur
tout
le marché.
C'était tout juste sous-titré.
Ouais, exactement. Alors moi, je vous préviens, tôt ou tard...
Where is Barry? Dans Resident Evil.
Là, c'était les premiers jeux avec des voix, mais je me mémore des Final Fantasy.
C'est du texte,
Il n'y avait pas de voix, c'était du texte.
Du texte et en anglais.
Et en anglais. Donc, c'était des jeux qui pouvaient bloquer, évidemment, la compréhension de l'histoire.
Alors, alerte spoiler, bientôt, on va faire de la localisation en langue corse. Préparez-vous. Après, non, je plaisante. J'y ai songé, je vous assure que j'y ai songé, j'adorerais le voir.
Il y a déjà.
Mais je crois que le marché est trop petit.
Il y a déjà la promotion des films à caractère pour adultes.
Je l'ai entendu dire ça aussi. Non, mais ça a toute sa place.
Ils sont traduits maintenant.
Je te rappelle le titre de l'émission, Game Lovers, ça a toute sa place. C'est des Game Lovers aussi, d'une certaine manière. Après tout. J'aimerais qu'on revienne, moi, sur le caractère, comment dirais-je, presque familial quand la console est arrivée dans les salons. Est-ce que vous avez des souvenirs à partager de sensations peut-être en famille ou entre copains à la maison? Est-ce que vous aviez pu vivre en arcade? Est-ce que vous l'avez revécu ensuite à la maison? Est-ce que vous avez des petits souvenirs comme ça des premières parties endiablées sur le canapé avec des copains, avec ta famille?
Moi, la première, c'était à Mega Drive. J'étais en retard par rapport à certaines personnes du fait que j'étais pas en France, là où j'étais, il n'y en avait pas.
T'étais où?
J'ai doré sous le soleil africain. Et au fait, moi, ce que j'ai l'impression véritablement, c'est que tu avais deux écoles. Tu avais deux écoles de pensée, tu avais Nintendo et tu avais Sega. Les joueurs de Nintendo avaient des formats type Final Fantasy, Zelda. Des expériences qui pouvaient se vivre souvent, qui pouvaient se vivre seul, les Mario et tout ça, qui pouvaient se vivre seul. Sur Sega, comme tu le disais un petit peu, il y avait un parti pris qui était fait où il y avait
on prend la borne, on vous la met dans le salon.
On met dans le donc les Street of Rage, les Golden Axe, les machins. Même si après ils ont eu des Sonic, même si après ils ont eu pas mal de jeux, mais j'ai l'impression moi sur les
Ridge Racer, c'est pas Sega? Ridge Racer.
Il y avait Road Rage. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'en fait, souvent pour jouer à plusieurs ou pour faire des parties, des tournois ou des machins et tout, c'était plus souvent avec la Mega Drive, avec les jeux de Mega Drive. C'est-à-dire qu'avec la Super NES, c'était vraiment où il y avait Mario Kart, le premier Mario Kart où on s'invitait pour aller faire une partie de Mario Kart et tout. Mais c'était malgré tout un truc collectif, c'est-à-dire que le
Bomberman, c'est Sega, ça, non?
Mega Drive. Ouais.
Mega Drive. Hein.
C'est-à-dire que le salon d'arcade se déplacer dans ton salon, c'est-à-dire que le mercredi après-midi, tu avais les parents qui avaient 4-5 gosses à la maison, c'était des tournois de Bomberman, c'est des tournois de Road Rage, c'est des tournois de Outrun. Donc c'était un peu comme ça. Donc moi, l'arrivée, ça a été avec la Mega Drive, avec des jeux qui étaient qui valaient ce qu'ils valaient, hein, mais qui moi m'ont marqué. Moi, Italia 90, c'est le premier jeu que j'ai vu. Voilà, c'était Italia 90, il y avait MotoGP, c'était un des premiers jeux où tu pouvais changer les moteurs, tu pouvais changer les freins, tu pouvais faire pas mal de
simulations
de tentatives de simulation. Après, tu as eu des jeux qui étaient assez sympas, il y avait Quackshot, qui était très rigolo. Donc c'est vrai que le Roi Lion, enfin donc
est-ce que toi tu dirais que les consoles, enfin est-ce que le jeu vidéo a réussi vraiment la transition entre le dehors, si j'ose dire, et le dedans? Est-ce que vraiment ils ont réussi? Est-ce que la promesse est tenue de on va vous amener l'arcade directement dans votre salon et vous allez vivre la même expérience?
Oui, mais enfin tu t'es isolé, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'était une expérience que tu faisais tout seul. C'est-à-dire à part le mercredi après-midi où t'invitais des copains ou quand ils venaient dormir chez toi ou tu jouais avec la console. Mais moi je suis encore partie de l'époque où on allait quand même pas mal dehors faire des cabanes, faire des trucs. Donc véritablement moi c'est au lycée qui a eu la bascule, c'est la PlayStation, hein. C'est la PlayStation qui a véritablement bouleversé ma vie de gamer. Où au
non,
fait,
non, on en reparlera forcément, mais
était,
oui.
Elle était branchée à la Mega Drive, mais je pense que j'ai beaucoup moins joué, tandis que je l'ai gardée plus longtemps, finalement. La Mega Drive, je l'ai gardée de la 5e à la 2e, quasi, puisque la PlayStation est
arrivée. Ouais, bah, durée de vie classique d'une console, hein, 6-7 ans.
J'ai pas eu la Neo Geo, j'ai pas eu la Saturn, j'ai pas eu, tu en avais eu une entre temps aussi, tu avais eu quoi?
La Super NES, non?
Donc. Moi, j'avais pas fait de bascule véritable, puisqu'au fait, les jeux me suffisaient, tu vois, j'avais même risque, c'est sur Mega Drive. Et au fait, moi, la vraie bascule, ça a été au lycée, à une seconde. La PlayStation, là, je prends une énorme claque, tandis qu'au fait, elle était sortie déjà un an ou deux avant, tu vois.
Donc pas de, t'as pas Saturn, non, hein?
Non.
Non, t'as pas fait la Saturn. Alors la Saturn, la 32 bits, donc qui avait suivi la Mega Drive, une console de Sega, qui elle aussi, hein, avait le, parti pris très fort d'aller sur les jeux de sport.
Mais ouais. C'était des événements. C'est-à-dire que celui qui avait la Saturn avait tout Calvi à la maison. C'est-à-dire que, non, mais.
Qui a été ringardisé, la pauvre, la Game par Cube, la PlayStation.
La GameCube, la Saturn, c'est-à-dire, ces gens se déplaçaient pour aller, oh, tu vois, elle coûtait une blinde, déjà, en plus.
Ouais, bon, ouais. Alors, la GameCube, je sais pas si les gens se sont déplacés pour jouer à la GameCube, vraiment.
Non, il y a eu la Nintendo 64 qui a bien marché. La Saturn, ça a été un flop parce qu'elle a pas tenu la comparaison avec la console de Sony. Et pour finir avec Sega, ils ont sorti la Dreamcast juste après pour concurrencer la PS2, qui était une excellente console, mais qui s'est plantée. Malheureusement contre plus fort que soi, alors que c'était le slogan de Sega, hein.
Ah, Sega, moi, c'est plus fort que toi. Moi, je peux pas le dire, franchement, pour la Dreamcast, parce que je l'ai toujours entendu dire, hein, parce que moi, je suis de la génération, ma première console, ça a été une PlayStation, puis une PlayStation 2, et donc, enfin, dès la première PlayStation, c'est bizarre, hein, parce que, comment dire, je suis pas fermé du tout à l'altérité, mais PlayStation a réussi à me fidéliser, mais sincèrement, dès sa première console, parce que, pour moi, elle
ça s'explique.
Elle est arrivée avec un truc complètement inédit. Je sais même pas l'expliquer, hein.
Sony a réussi à sortir de sa console juste une console de jeu. Ce qui a fait la PS2, c'est son lecteur DVD. On pouvait avoir à la maison une console de jeu et un lecteur DVD. C'était inimaginable pour l'époque.
Oui, parce que le lecteur DVD coûtait le prix de la console.
Coûtait une blinde. Coûtait même, voire plus cher selon certains produits. Et cette démocratisation-là du cinéma à la maison, alors on est sur du jeu à la maison, mais aussi sur du cinéma à la maison.
Non,
mais
là, on sort du VHS.
C'était quasi l'argument d'achat de certains
enfants.
C'était, hein.
Non, mais c'était l'argument d'achat. Mais moi, je pense que ça a été dans mon argumentaire, il figurait en bonne place l'argument DVD de la console. Hein. Mais tu vois, la Dreamcast, juste pour revenir sur la Dreamcast, j'ai l'impression que c'est partagé par tout le monde. Tout le monde te dit, c'est une console géniale, mais j'ai l'impression que personne ne l'a eu. Mais c'est triste. C'est triste parce qu'en plus, elle a l'air d'être vraiment techniquement de tenir la route, tu vois, par rapport à une PS2, elle sort un an avant. Elle assumait complètement, mais peut-être trop tard en fait, elle assumait ce truc-là de l'arcade à la maison parce qu'elle, pour le coup, elle l'a fait à fond. Elle a fait du Crazy Taxi à la maison et ça ressemblait à de la borne d'arcade.
La Dreamcast, on pouvait jouer en réseau sans avoir un abonnement Internet. Bon.
Dans des conditions particulières. Oui, mais oui, Fantasy Star Online.
C'était bien, mais après, c'était compliqué, mais...
J'ai pu jouer à un jeu qui s'appelait Ferrari F355 Challenge, simulation automobile pure et dure. On ne pouvait voir que les joueurs avec lesquels on jouait en réseau que sur des ralentis, pas en direct. Enfin, ça paraissait incroyable pour l'époque, mais c'était quelque chose d'exceptionnel.
C'est du asynchrone, hein, comme on dit aujourd'hui.
Donc, hein, crois, tu posais la question de savoir si l'arcade venait à la maison sur les consoles de...
Ouais, est-ce que la promesse, elle avait été tenue? Parce qu'en fait, moi, pour moi, celle qui le réalise probablement le mieux, c'est la Dreamcast. Et en fait, c'est une console qui est, ben, alors, qui s'est tellement peu ou mal vendue. Ben, déjà, c'est la fin de Sega. Donc,
je vais rebondir sur ce que disait
celle qui,
François.
En fait, celle qui a tenu le pari de l'arcade à la maison, la forme la plus aboutie, elle a conduit à ce que derrière, ce soit plus demandé par les joueurs.
Toutes les consoles avaient ce but-là de faire l'arcade à la maison. Sega l'a en partie réalisé parce qu'on avait à peu près les mêmes jeux, mais n'avait pas la même teneur. On était toujours aspiré à jouer à l'extérieur. Je pense que ce qui nous a renfermé, c'est l'époque mi-90. Hein. La sortie de la PlayStation, je ne sais plus si c'est 94 ou 95.
C'est 80. Purée, j'ai un vrai doute. J'ai 94, mais...
Jusqu'à présent, moi j'ai eu la Mega Drive, mais ça posait déjà un problème parce qu'il fallait avoir une télé compatible à ce que la lecture du jeu se fasse correctement. Enfin, c'était assez déjà compliqué. Et,
94 au Japon. 95.
Et on n'avait pas forcément les magasins en Corse comme on pouvait l'avoir déjà sur le continent avec les Micromania et autres. Je pense que ce qui a déjà rendu l'âme des salles d'arcade, c'est le réseau. Le fait de pouvoir jouer avec des dizaines, pour pas dire plus, joueurs en ligne, sur un jeu commun, c'est le réseau. C'est le réseau qui a tué l'arcade, et c'est le réseau qui amène le modernisme et les jeux à la maison.
C'est la tendance, donc c'est la flemme de l'être humain de sortir de son canapé qui a tué les bornes d'arcade, vous vous rendez compte?
Non, mais ça t'ouvrait le champ des possibles, et puis je pense que si Sony... très vite, a réussi le tour de force par rapport à Nintendo et par rapport à Sega de sortir un catalogue, un éventail très large. C'est-à-dire qu'ils ont été sur l'automobile, en sortant un Gran Turismo, le premier il est iconique, en sortant Gran Turismo, il y avait Derby, Demolition Derby, je pense.
Destruction
Derby. Donc, en jeu de voiture, il y en avait 4-5 qui permettaient aux gens de trouver ce qu'ils voulaient.
T'avais Ridge Racer, c'est-à-dire qu'en plus elle assumait les deux à la fois, la PlayStation,
de foot,
elle fait l'arcade, mais elle fait autre chose.
Il y avait au début ISS, c'était pas PES, c'était ISS, et il y avait FIFA. Donc il y a toujours eu les deux entités. Il y en a même eu une troisième à un moment qui a essayé de s'immiscer dans le truc.
Il y a eu un Adidas Power Soccer avec en commentaire l'humoriste. Tu me rappelles le nom de l'humoriste qui était dans les
journaux de l'info?
Je l'ai pas, moi.
Yves Lecoq.
J'étais sûr.
Il y a même eu un grand libéro football où, en fait, là, c'était le premier jeu de football où tu ne jouais qu'un personnage. Donc, en fait, ils avaient ce truc. Tu as eu les premiers jeux d'horreur. Tu as eu Resident Evil.
Est-ce qu'en fait, elle fait pas ça, la console? Est-ce que c'est pas justement la console qui arrive à te proposer l'arcade si tu la veux, mais en plus, pas à la ringardiser, mais à arriver avec une autre offre d'un truc qu'on n'a jamais vu.
C'est la force de Sony d'avoir créé, en plus.
Tu vois, de sortir de la seule logique du scoring dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que il s'agit plus seulement de faire le plus gros score et de te comparer aux autres, il s'agit de dire, voilà, tu vas mettre ta galette dans ta console et tu vas vivre une aventure où tu vas vivre
et surtout,
aux commandes et...
C'est-à-dire que, tu avais les Final Fantasy, tu avais déjà des franchises qui marchaient. Sur la NES, sur la Super NES, qui sont les Dragon Quest, les Final Fantasy, les Shinobi, les Golden Axe. Tu avais des franchises qui étaient quand même connues. C'est-à-dire que quand tu parlais avec tes copains, ouais, tu es le 2, le 3, le 4. Sony a eu quand même le truc de créer d'un coup des mondes iconiques, de les poser. Je dirais Resident Evil, c'est eux. Même si, comme tu dis, c'est une déclinaison d'un autre jeu au départ, c'est eux. Après,
attends. Si. Ils arrivent non seulement avec
catalogue monstrueux.
Non mais quand tu dis Resident Evil, en fait, derrière ça, il y a aussi, ils arrivent avec un univers mûr, dark, sombre.
Puis tu avais l'autre.
Comment c'était
le concurrent de Resident Evil? Attends, tu avais l'autre là où tu cherchais ta fille dans une ville.
Silent Hill. Oui, non mais justement, est-ce qu'en fait la grande force? Est-ce que nous aussi, ce qui nous a pas marqué, parce que moi j'ai été marqué par cette console parce que c'est la première, mais parce que surtout, elle me propose quelque chose de, alors que j'ai seulement 10 ans, hein, à ce moment-là, elle me propose quelque chose de mature, de mûr, d'adulte.
Parce que le jeu vidéo a évolué avec ses joueurs. Les jeux en arcade d'abord.
Et la tech aussi, hein, la 3D. La 3D, l'âge des joueurs qui avance.
Mais les enfants des années 70, ce sont les adultes de maintenant. Et les créateurs de l'époque ont évolué. En fait, ils ont gardé les mêmes joueurs. Sauf que, y a que Nintendo qui se met à part, parce que lui, il veut rester sur son écosystème pur et simple. Mais qui marche, hein, puisqu'il y a d'autres enfants.
Ouais, c'est qu'en fait, Nintendo, il cherche à attraper à chaque fois une nouvelle génération.
Oui. Moi, j'en veux plus du Mario. Je dis pas que c'est pas plaisant. Je vais y rejouer volontiers, mais de manière très.
Regarde ce qu'ils ont fait avec Breath of the Wild, hein. Eux aussi, ils bougent, hein.
Voilà. Parce qu'ils ont proposé un monde ouvert. Mais, sur un Breath of the Wild et un Elden Ring, puisque c'est le jeu référent maintenant, on sait où on va aller. Parce que, on a plus 10 ans. Donc, Ils ont mûri avec nous et ça apporte tout son sens.
Non, mais moi je pense que la grande force de PlayStation, justement, à un moment donné, ça a été ça. Ça a été de nous proposer, alors que encore une fois, moi c'est peut-être ça qui m'a fasciné en fait, parce que quand on est petit, qu'est-ce qu'on veut, c'est devenir grand. C'est tout bête, hein. C'est un argument qui est dans la bouche de tous les enfants. Et j'ai l'impression que j'avais un objet à la maison qui m'a permis de le faire. Je veux dire, jouer l'agent secret. Alors, pas de GoldenEye, hein, parce que j'avais pas de N64 à la maison, il y a eu des parties endiablées, mais comment ça s'appelle, Metal Gear Solid. J'ai joué un agent secret avec ce degré de d'expertise, de finesse.
Mais il y avait même des jeux qui étaient complètement, qui ont pas été des blockbusters, mais qui étaient révolutionnaires. Tenchu, où en fait, t'étais un ninja, et tu pouvais faire un jeu sous plusieurs formes, c'est-à-dire, c'est soit tu faisais à la ninja, pas que tu te fasses repérer, tu étais noté à la fin. Il y avait des notes de A, B, C, D, E, F. Donc bon, moi j'étais souvent sur F parce que j'y allais un peu à la truc. Si tu pouvais faire la mission en une minute, comme tu pouvais finir la mission en deux heures. C'est-à-dire, si tu fallait pas faire de bruit, il fallait pas faire de trucs et tout. Mais moi je vais te dire, PlayStation, puisqu'on parle des jeux qui nous ont révélé.
Tenchu, c'est un jeu de ninja, hein, pour ceux qui connaîtraient pas, fait par From Software, l'éditeur du moment, qui vient de sortir la bombe. La bombe probablement de ces 10 dernières années avec Elden Ring et les Souls.
Et du coup, moi, c'est rien que sur la PlayStation, il y a 3 jeux iconiques. Il y a ISS, qui est l'ancêtre de PES, PES qui aura pourri toutes mes années de fac. Donc, il y a eu ISS Pro, il y a eu Resident Evil pour moi, et Final Fantasy VII, les 3.
Et tu en oublies un.
Tomb Raider.
Tomb Raider.
S'il vous plaît.
Et Tomb Raider, je vais très vite être vulgaire, puisque... Là, c'est une histoire d'amour.
C'est Game Lover.
Voilà. C'est une histoire d'amour avec la personnage.
C'est là où on regardait les pixels.
et Tomb Raider, mais c'est vrai que tu le dis, tu vois. Mais regarde, une console, qui crée, 3 franchises, parce que pour le coup, il y a Tomb Raider. Pour le coup, ISS, c'est l'ancêtre de PES. PES qui survit aujourd'hui, hein, malgré tout, hein.
Qui bouge encore.
Ouais, voilà, ouais. Lancez pas le gramme plat, mais.
Il bouge encore, mais. Encore. Je mettrai pas une pièce.
Non, ils ont fait une grosse, bon, écoute. Mais, ISS, Resident Evil, enfin, je veux dire, moi, j'ai eu ces 4 jeux-là. Donc, Tomb Raider, Resident Evil, ISS Pro, et Final Fantasy VII. Ces 4 jeux-là équivalent au redoublement de ma seconde. Même si j'ai redoublé, non pas pour les notes, mais pour autre chose. Hein.
Alors, il y en a en vrai beaucoup plus que ça. T'en oublies, hein. T'oublies Gran Turismo au passage. Bon, tu l'as cité tout à l'heure, mais tu le cites plus là. T'oublies Metal Gear. T'oublies les Tekken. Enfin, je veux dire, c'est tout une ça, machine tout ça à tube, la première
PlayStation. Tout ça t'arrive d'un coup, en fait. Si tu prends une gifle d'un coup,
c'est des licences qui sont encore vivantes et bien vivantes.
Tu as 15-16 ans, tu te prends ça parce que non seulement tu as les franchises révolutionnaires, mais en plus tu as un boom technologique. Moi, je te rappelle que quand j'ai eu la PlayStation, je suis passé de la Mega Drive, même si j'avais un peu joué à la Saturn, même si j'avais un peu joué à la Dreamcast chez les uns, chez les autres, je fais un boom véritablement technique, technologique, d'un coup. C'est-à-dire que je passe le mur du son, hein, et je perds mes cheveux, hein, à l'occasion.
Concomitamment.
Mais, non, mais véritablement, voilà, moi, ces 4 jeux-là, c'est, je pense, cumulé, c'est 2 ans pour les terminer les 5. Tu vas ajouter Gran Turismo aussi. Mais pour ajouter ces cinq jeux-là, c'est 18 mois, 24 mois, quasi non-stop, je pense, la console était allumée minimum une heure par jour.
Et voilà, c'est tout pour cette première partie d'épisode 1. Là, on s'est concentré essentiellement sur notre arrivée dans le média, notre découverte des jeux vidéo à travers les machines. On parlera un peu plus de jeux dans cette deuxième partie d'épisode 1. Ça arrivera d'ici une petite quinzaine de jours. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés, que vous soyez sur RCC ou en podcast. Et Game Lovers, le podcast corse des amoureux de jeux vidéo, vous dit à très bientôt et vous remercie très chaleureusement. Salut à tous.